There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Store, on s'en va joindre notre ami Éric Deboise de Ce Pas sans plus tarder parce qu'on a du matériel à plein à traiter avec lui. Salutations, comment ça va?
Salut, très bien toi?
Ça roule. J'ai chaud, pour être bien franc. Le studio est à 26 degrés. Hâte de finir l'émission, mais surtout hâte de t'entendre te prononcer sur la situation en Ukraine présentement. Et après ça, la guerre, l'élection en Turquie. La guerre en Ukraine... On a de moins en moins d'informations. Tu scrutes la chose avec un œil attentif. Qu'en est-il de Bakhmout qui serait tombé sous les mains russes au cours des derniers jours?
Écoute, la guerre en Ukraine, on est au 454e jour. Hein, c'est vraiment le calendrier, c'est comme juste avant Noël. On compte les jours. Hein. C'est comme ça dans la presse. Et là, effectivement, à Bakhmout, on serait, apparemment, la Russie aurait repris complètement toute la ville. Enfin, la ville, en fait, c'est un immense terrain complètement
ravagé.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais il n'y a plus rien, littéralement. C'est du terrain qui est complètement...
Exact.
Qui est complètement...
totalement triste.
Terrassé.
Puis ce qui reste est souvent rebombé une deuxième fois. C'est pas drôle.
Ben, exactement.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
C'est des ruines, mais il y a des ruines qui sont accumulées sous de la terre, etc. Donc, c'est vraiment désolé comme terrain. Il n'y avait plus grand-chose à conquérir du côté ukrainien, puisque les Russes avaient pris la majeure partie du contrôle. Mais là où ont été intelligents les Ukrainiens, c'est qu'ils ont utilisé cette ville qui n'est en rien stratégique pour épuiser l'adversaire.
Okay.
Et là où c'était vraiment... très très bizarre de la part des Russes. Moi personnellement, j'ai trouvé ça bizarre.
Ouais.
Pourquoi attaquer en plein hiver, les gars?
Okay.
Attaquer en plein hiver, c'est vraiment pas gagnant. Toutes les grandes puissances qui ont attaqué en hiver ont toujours perdu.
Ouais.
Ils auraient dû mettre des efforts dans la défense, ce qu'ils ont fait, hein, mais ils auraient pu éviter de perdre entre 20, enfin les estimations sont entre 20 et 100 000 hommes, donc on ne sait pas trop exactement, mais on sait que c'est une hécatombe du côté russe. Du côté ukrainien, ils en profitent aussi pour tenter d'encercler donc les forces qui se sont accumulées à Bakhmout. Donc ça pourrait être, comme on dit, une victoire à la Pyrrhus. La victoire à la Pyrrhus, c'est quoi? C'est encore une victoire comme celle-ci, puis c'est la défaite.
En tout cas, c'est ça. Le groupe Wagner, pour que le patron de cette armée privée-là fasse des menaces carrément au Kremlin puis aux hauts dirigeants de l'armée russe, c'est parce qu'il y a eu du trouble.
Tu parles de Prigojine. Mmh. Bon, là, avec ce groupe Wagner, qui est en fait un groupe privé de mercenaires, c'est quand même assez compliqué parce que les relations avec le pouvoir russe ne sont jamais simples et on ne peut pas insulter directement on peut pas insulter directement Poutine, donc on a toujours des moyens de détourner pour dire que ça ne va pas. Et donc en l'occurrence, Prigojine attaquait tout le temps en fait le ministre qui était en charge de l'armée en Russie. Donc effectivement que lui il menace, bah, peut-être qu'il y a un jeu politique, mais on a du mal à le mesurer. Où lui-même aurait des ambitions politiques pour remplacer peut-être à terme Poutine.
Ça,
c'est difficile à mesurer.
Ça se sent. D'ailleurs, j'ai demandé des renseignements à Victor Bout, le marchand d'armes international qui a été échangé contre la joueuse de basket récemment, Brittany Griner, ce qu'il pensait de ce personnage. Et il m'a dit, je vais vous mettre en contact. Il n'a pas voulu avancer le moindre qualificatif que ce soit. D'ailleurs, parenthèse, on reviendra à l'Ukraine. Je l'ai questionné sur Paul Whelan, qui est un Américain détenu par la suite, là, un Américain détenu en Russie présentement, pour savoir son opinion là-dessus. Et il me répond il y a quelques temps, quelques minutes. Paul Whelan, son histoire est très intéressante. À part son background, il venait souvent en Russie. Il a été arrêté au moment d'avoir des informations secrètes. Plus, on dirait que les États-Unis veulent pas vraiment le revoir. Juste parenthèse fermée, là, c'est la dernière communication que je viens d'avoir de Victor Bout. Je vous la livre en exclusivité, live comme ça, pendant notre jasette sur l'Ukraine. On revient à...
Personnellement, je le connais pas. Je le connais pas, mais ce qu'on peut voir, c'est que la Russie, elle a un côté libéral, mais elle a aussi un côté autoritaire. OK?
Ouais.
Ça ne veut pas dire qu'on est dans une dictature, attention. Hein.
C'est un régime autoritaire, ça, il n'y a pas de doute.
C'est un régime qui veut accumuler les pouvoirs au sein d'un seul homme qui dirige tout un pays. Et rendu là, on peut utiliser effectivement des citoyens de d'autres pays comme monnaie d'échange. Et là-dedans, dans un régime autoritaire, un Prigojine, lui qui a un groupe de mercenaires privés, le fait de s'étendre en Afrique, en Syrie, etc., c'est un moyen pour lui d'accumuler de l'argent pour être ensuite en mesure d'aller conquérir le pouvoir.
Des connexions aussi, notamment comme Victor Bout a fait lui-même. C'est pour ça qu'il tenait tant les Russes à le revoir. Le gars est capable d'aller chercher des armements pour les rapatrier. Il a fait sa carrière à aller prendre l'ex-URSS puis à les envoyer partout. C'est pour ça qu'on...
En fait, il y a les connexions, ça c'est très important comme tu le dis. Mais aussi au niveau russe, dans la mentalité, il faut toujours y penser que à quelqu'un qui a été un guerrier, quelqu'un qui a été sur le terrain, qui s'est battu, c'est l'homme par excellence, c'est l'homme viril, absolument. C'est le héros.
Puis Vladimir Poutine, d'ailleurs, dans son aura, il y a beaucoup de ça. Le gars avait reviré des émeutiers à la chute du mur de Berlin qui voulaient défoncer l'ambassade russe à Berlin seul. Ça lui a servi toute sa carrière, ça le tient encore aujourd'hui. Mais pour finir avec l'Ukraine, ça, on n'est pas certain nécessairement que c'est effectivement positif pour son bilan, pour son avenir, même si le gain à Bakhmout peut faire du bien à certains égards.
On ne sait pas, mais là où je mets un holà au niveau encore de la guerre en Ukraine, je crois que tu l'as bien compris, je ne suis pas partisan de la montée progressive en puissance contre la Russie. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on a... Enfin, le Royaume-Uni a annoncé une coalition pour offrir des avions de chasse.
Impossible, il n'y aura pas d'avions de chasse, il n'y en aura jamais. Ben oui, des avions de chasse. Avant ça, c'était impossible, il n'y aura pas de char, des tanks, ça serait une escalade.
De Shadowstorm, etc. C'est quoi la prochaine étape? Là, on est vraiment...
La prochaine étape, là, c'est... On prend des deniers publics puis on les donne carrément à Lockheed Martin puis à des compagnies d'armement américaines puis on leur dit, garde, arrêtez de faire des guerres, on va juste vous payer.
Rendu là, on est vraiment co-belligérant, là, je suis désolé, mais il manque quoi? On n'a plus qu'à leur offrir l'arme nucléaire et puis... Bon, vous nous promettez de ne pas vous en servir, là. ça devient quand même... Je ne dis pas que c'est inquiétant, mais c'est pas du tout le discours qu'on a nourri tout le long. C'est sûr que l'Ukraine a le droit de défendre son entité territoriale et son intégrité territoriale, sa souveraineté, mais de là à monter toujours en puissance. Et puis, de la manière dont on le fait, ça renforce l'idée que les Occidentaux, on est des hypocrites.
Ben, clairement, Joe Biden est un faucon. C'était George W. Bush, le chasseur d'armes de destruction massive. Là, c'est le sauveteur de l'Ukraine, Joe Biden. Des conneries pour idiots. À chaque fois, on réussit à s'en faire passer ça. On donne pas d'armes à un régime sans demander des pourparlers à la clé. normalement.
Exactement. Et tu remarqueras, hein, encore une fois, un démocrate va faire la guerre, on ne lui demandera rien. On ne lui demandera pas de quoi.
Exact.
Ça aurait été Trump qui aurait fait ça. Oui. Ah ben alors là, ça aurait été le désastre international. On aurait eu un nouveau Hitler, en fait.
Voilà, mais ça a déjà été mentionné, alors qu'il a été le président le plus pacifiste de l'histoire récente des États-Unis.
Exactement.
Turquie, on descend et on s'en va au pays d'Erdogan, qui est en élection. Le premier tour a été fait. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la Turquie est d'une importance stratégique extrême, tant pour l'Europe que pour nous, en Amérique ici, que l'Afrique et l'Asie. Ça a toujours été une espèce
Effectivement, replaçons la Turquie rapidement sur la map. C'est le lien entre l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient, la Russie. Donc, c'est vraiment ce pays carrefour et qui... est à la fois dans l'OTAN, mais qui joue un peu le troublion, puisque pas toujours aligné avec les États-Unis.
Ben, exemple, récemment, ils ont fait des problèmes à intégrer la Finlande dans l'organisation.
Exactement, qui ont fait des problèmes pour la Suède et la Finlande concernant l'intégration dans l'OTAN, qui maltraitent aussi quand même certaines minorités, que ce soit les minorités religieuses, mais les minorités ethniques, telles que les Kurdes.
Les Arméniens.
Les Arméniens, qui a une relation aussi trouble avec dans la guerre en Syrie, qui a des liens avec la Russie. Donc, c'est un pays qui joue beaucoup, en fait, sur sa position géostratégique et qui va tirer la couverture là où il peut en tirer le maximum de bénéfices. Faut le dire comme ça. Et dernièrement, la Turquie s'est beaucoup mise en avant avec la guerre en Ukraine, notamment parce qu'elle a joué un rôle central sur deux points. Ce sont les fameux drones qu'a l'équipe l'Ukraine et qui ne coûtent pas cher et qui ont permis d'être très efficaces sur le terrain.
Ouais.
Et le deuxième point, elle a joué un rôle essentiel aussi sur la négociation des exportations de céréales d'Ukraine. Hein, rappelons que l'Ukraine, c'est quand même le grenier à blé du monde aujourd'hui.
Absolument.
Si l'Ukraine n'exporte pas ses céréales, nous avons des famines dans le monde et donc des crises.
On pourrait avoir un printemps arabe numéro 2. D'ailleurs, ils le savent bien. Erdogan comprend que ça pourrait le toucher lui-même. Donc,
200%.
Ouais.
Donc, là où se situe aujourd'hui la Turquie, c'est qu'on a un Erdogan qui, pareil, est un peu, on va le dire, on se dirige vers un régime plutôt autoritaire, ouais. Même s'il y a encore une pluralité de voix en Turquie. Et c'est un homme qui est au pouvoir depuis presque une vingtaine d'années. Mmh. Et donc, il a évolué sur le plan conservateur. Il a réduit le pouvoir de la presse, de plus en plus de journalistes emprisonnés. Les minorités ont du mal aussi à s'exprimer. C'est lui qui a fait que la grande mosquée, là, que tout le monde voit en photo, c'est redevenu un lieu de culte.
Exact. Alors,
c'était un lieu touristique.
Ouais.
C'est lui qui a parlé que les femmes turques, il fallait absolument qu'elles fassent des enfants, donc il voulait quasiment instaurer pendant un temps un minimum de 3 enfants par femme turque. C'est lui qui a miné aussi la séparation qu'il y avait entre l'église, enfin la mosquée et l'État, donc la laïcité, puisque c'était un des pays les plus laïcs aussi.
Depuis Kemal Atatürk, il a joué là-dessus.
Exactement.
Et ça, c'était, il y a beaucoup de Turcs qui n'ont jamais accepté ça. Pourtant, il est en train d'être reconduit, là, si je comprends bien. Le premier tour est passé.
Il est passé. Il se peut qu'il y ait un séisme politique. Alors, sans mauvais jeu de mots, il y a un séisme politique qui va se faire en Turquie, puisque tu te souviens peut-être qu'au mois de mars, il y a eu un séisme en Turquie, un vrai séisme. On ne parle pas d'un séisme politique, un séisme qui a fait plus de 45 000 morts. Et ce séisme, le Erdogan a mis plus d'une semaine pour se déplacer, aller sur place, voir les gens. Et ça, son adversaire, dont je ne qualifierai pas le nom parce que c'est trop compliqué à dire, son adversaire aussi s'était déplacé dès le premier jour. Et ça avait beaucoup marqué les esprits. Et donc, on se retrouve avec un Erdogan qui a en face de lui l'union des gauches, des forces progressistes, et qui pourrait gagner, parce que cette fois-ci, il y a vraiment un état de faiblesse. Erdogan a su maintenir la Turquie géostratégiquement, mais le pays est dans un sale état. Sur le plan économique, l'inflation est galopante en Turquie.
Entre autres.
Plus que ce que nous, on connaît avec, depuis la pandémie. C'est-à-dire que eux, ça fait 7 ans qu'ils connaissent cette inflation.
Des difficultés d'approvisionnement intenses, il y en avait déjà. Ajoute les internationales à ça, ça fait des ravages. C'est bien dit. T'sais, côté géopolitique, il a été impressionnant. À l'interne, c'est le bordel. Puis les électeurs, généralement, ça passe en second, que ce soit en Turquie, aux États-Unis ou au Japon.
Un électeur dans un pays comme ça, ça pense à quoi? Ça pense au pain. C'est d'abord se nourrir. Mm-hmm. C'est d'abord avoir les choses de base. Se nourrir, la sécurité, la maison. Et avec l'événement qu'il y a eu, ce séisme en mars 2023, est revenu le fameux fonds conservateur qui est que s'il y a des séismes, c'est parce qu'il y a de l'homosexualité, il y a de la...
Oui, oui. Tu sais, il y a quand même des gens éduqués à l'occidental qui comprennent que c'est de la totale étourderie, de la fourberie que ce genre de propos-là.
Même les gens qui sont paysans, ils le comprennent, c'est total bullshit, oui. C'est foutage de gueule. On utilise la religion justement pour justifier nos propres incuries, en quelque sorte. Donc, il a fait des erreurs au niveau des électeurs, et les gens, ils en ont assez. Du côté aussi, il faut le dire, l'armée, du côté des universités, ces gens qui sont éduqués veulent reprendre le pouvoir pour justement remettre la Turquie sur un mode de développement démocratique et se rapprocher de l'Union européenne.
Si ça ne se produit pas, est-ce qu'on peut envisager un exode prochain comme les pays voisins le vivent, puis d'ailleurs que la Turquie sert à tamponner, là. C'est une zone de tampon un peu entre la Syrie qui se vide puis la Libye, etc.
Ben, la Turquie, le problème, c'est qu'elle est devenue une grande quêteuse. Elle fait toujours la quête. On ne laisse pas passer les migrants, mais à l'occasion, elle les laisse passer pour aller chercher de l'argent auprès de l'Union européenne. Et je vois mal l'élite turque quitter pour s'installer en Europe. C'est quand même des gens qui sont fiers, qui ont une longue histoire, qui aiment leur pays. C'est pas, on les amène pas à la guerre non plus, comme avec la Russie.
Bah, pas pour l'instant. Juste, mais lui, s'il est reconduit, il va resserrer.
C'est un pays qui se dégrade. Mais la chance, je vais dire, des Turcs, entre guillemets, c'est que Erdogan aussi est une personne qui se dégrade. Comme beaucoup de dirigeants qu'on connaît aujourd'hui, on a Poutine, Erdogan, on a Xi Jinping, ces gens-là ne sont pas éternels.
Vieillissent, et, Joe Biden.
Exactement. Ouais. Et il y a un mois de cela, si je me souviens bien, Erdogan, en plein interview télévisée, en live, s'est évanoui.
Ah bon? J'ai pas vu ça passer. Tranquille.
Et en s'évanouissant, eh bien, évidemment, non seulement ses partisans, mais aussi les opposants, ont vu là non pas un état de faiblesse de sa part, ils se sont dit, ben, physiquement, il n'est même plus capable de tenir le pays. Alors, est-ce qu'on veut se retrouver avec une Turquie qui va être comme l'Algérie, qui avait un Bouteflika qui était dans sa chaise roulante, et puis
ça a duré,
Non. C'est, en fait, de plus en plus, la jeunesse arabe, la jeunesse musulmane, la jeunesse turque aussi, ce qu'ils veulent, c'est des dirigeants qui conduisent leur pays, qui soient capables de les amener à la prospérité, et non pas des dirigeants qui sont toujours plus vieux, toujours plus décadents, parfois qui se retrouvent en fauteuil roulant, justement, et puis qui blâment toujours l'Occident avec des arguments pseudo-religieux pour dire, voyez, on est pauvre, mais c'est à cause des autres.
Très bien dit. Ça va terminer la discussion, mon ami. C'est un grand plaisir.
Si je peux me permettre, j'ai écouté aussi l'interview avec Joe.
Oui.
Et il y a un point que j'aime beaucoup, et je crois qu'on l'avait déjà souligné en ondes. Oui, faire voter pour les juges et aussi pour les policiers, enfin les chefs policiers, ça serait très intéressant pour la démocratie au Québec.
Pas de doute là-dessus. Merci, mon chum.
Allez, bonne journée.
Intéressant. Les réactions continuent de rentrer aussi sur l'entrevue avec Jonathan Blanchette, Joe Lindigo. Allez-y peut-être plus sur la page des salles, les messages, parce qu'on doit laisser le studio. Mais avant, on a une petite plug de baseball. On a été deep. On va être dans la légèreté deux secondes. Les Diamants, c'est ça?
Yes, la Ligue de baseball junior élite du Québec. On lance la saison 2023. C'est la 77e saison et ça va avoir lieu ce samedi 20 mai. Les Diamants de Québec qui débuteront leur saison en affrontant nul autre que les champions de la dernière série éliminatoire, le Royal Chevrolet de Repentigny. C'est prévu à 14h au stade Canac. C'est 42 games qui sont à l'horaire pour les 13 formations du circuit. Notamment beaucoup de nouveaux coachs, de nouveaux entraîneurs. Notamment, on a Raphaël Prémont, qui est un ancien joueur de la Ligue de baseball junior élite du Québec, qui prend la place du gérant qu'on connaît bien, Carl Gilna, à qui on a pu jaser régulièrement. Donc, go Diamant, go! Ça commence ce samedi 20 mai, 14h, Stade Canac. Manquez pas ça.
Ça, c'est de la grosse balle.
Yes!
Merci, mon Chico. Bonne soirée. La tanière est absente ce soir, fait qu'on évoque du beat. Puis, c'est mardi, ça veut dire hip-hop urbain, ça veut dire plein de belles affaires et tout. À demain, les paupiètes.